Mon dernier, mon dernier. Geworden. Schwer Juden, der viele, ich gedenke nicht mehr die Zwille, ich gedenke nicht mehr die Zwille, ich gedenke nicht mehr die Zwille. Мой дани,
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler à la fois de poésie et de musique, puisqu'il s'agit de quelqu'un de très célèbre, mais à la fois de très méconnu. C'est Heinrich Heine, qui s'est très bien défini de la façon suivante. Avec moi se referme la vieille école du lyrisme allemand et en même temps s'ouvrent les voies de la modernité du nouveau lyrisme allemand. Heine n'a pour moi pour véritable égal les contemporains que Baudelaire. Tous deux sont des chantres de la modernité poétique. Tous deux admiraient et écrivaient sur les peintres de leur temps, surtout Eugène Delacroix. Chacun d'eux était plongé dans l'amertume et le besoin et haïssait pareillement les bourgeois et finalement les hommes. Chacun d'eux ne se faisait guère d'illusions sur l'amour. Chacun d'eux maudissait les hommes et aimait avec passion l'humanité. Chacun d'eux est mort en exil. Heine sera interdit en Allemagne. Baudelaire s'enfuira en Belgique. Et leurs poèmes ne seront véritablement compris que bien, bien après. Et pour eux deux, le scandale a éclaté, est arrivé et a inondé les penses bourgeoises et nationalistes. Mais la beauté vénéneuse de leur poésie n'en finit pas de nous hanter.
Es wusste weder Vater noch Mutter. Stern, sie sind gestorben, verdorben.
J'ai tenu, comme entrée en matière, à vous faire écouter ce lead qui est en trois parties. Celle qui chantait, c'est Brigitte Fassbender. Et la musique est de Robert Schumann. C'est très peu connu en France et s'appelle Tragödie. Parce que pour moi, ça définit complètement l'univers de Haydn. Il y a trois parties. Je ne vous ai pas passé à trois parties parce que ce que je vais vous dire est autosuffisant. La première chanson, le premier lied que vous avez entendu, dit « Fuyons, fuyons ensemble, sois-moi et repose-toi contre mon cœur. Qu'au loin, mon cœur te soit une patrie, un foyer. » Et le second dit la chose suivante, qui définit toute l'amertume de Haydn dont on va reparler. « Ils ont erré à l'aventure, ils n'ont connu aucun bonheur, aucune fortune. » Ils sont à jamais morts, à jamais pourrissants. Le troisième que je ne vous ai pas passé dit simplement « Sur leur tombe se dresse un tilleul, un oiseau chante, et tout le monde en devient muet. » Ceci pour vous dire que chez Haydn, comme chez Baudelaire d'ailleurs, on retrouve ça dans les Fleurs du Mal parfois, exactement contemporaine, on trouve cette idée « L'amour est une exaltation qui se termine toujours par le pourrissement. » Un autre aspect de Haydn, c'est que c'est un immense écrivain politique qui croira au bonheur de la Révolution. Il est aussi l'enfant de la société industrielle naissante. Comme Baudelaire, à partir de la médiocrité du présent, il transfigure la poésie. Il fait rendre gorge à la banalité du quotidien. Il est dans la même source, baigné d'amertume, d'ironie, de joie, parfois, et aussi de pathos. L'art de Haydn est là, dans son extrême simplicité des mots, par ses résonances et ses rimes. Haydn est déjà totalement en chant dans ses poèmes, ce qui fait qu'il est facilement mis en musique. Et déjà dans ses poèmes faits à l'âge de 16 ans, les ailes du chant le portent. Et dès 1821, on peut dire que l'histoire de la poésie occidentale était marquée d'une pierre blanche. C'est l'apparition du Buch der Lieder, le livre des chants. Haydn, en fait, est beaucoup plus connu comme l'ange noir qui a tant inspiré les musiciens romantiques allemands que par ses propres œuvres qu'on connaît peu. Il aura été de loin, et ça je tiens à vous le dire, le poète allemand le plus mis en musique, bien avant Goethe. Pourquoi ? Parce que son chant est le chant lui-même.
Schönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Deine Augen sie, so schwind. findet all mein Leid und Weh. Doch wenn ich küsse deinen Mund, so werd ich ganz und gar gesund. Wenn ich mich lehn an deine Brust, doch wenn du sprichst, ich liebe dich, so muss ich weinen bitterlich.
Voilà, c'était Dietrich Fischer-Dieskau qui chantait deux extraits de Dichterlieb, Les Amours du Poète. Je les ai placés là, à la suite, parce que le premier décrit le joli mois de mai, le merveilleux mois de mai dans lequel les bourgeons s'épanouissent et l'amour fleurit. Et le second, dont je vais vous dire quand même la traduction, les traductions sont personnelles, puisque Heine a été assez massacré en traduction française. Et le premier était pour vous montrer cette mélodie, c'est toujours de Schumann, j'ai oublié de vous le dire, c'est pour vous montrer cette mélodie merveilleuse de la langue allemande qui appelle les notes. C'est pour ça que Schubert, hélas trop tard, puisque c'est à la fin de sa vie qu'il aura mis six poèmes de Heine dans le chant du cygne en musique, qui est la plus belle partie de son œuvre avec Le Voyage d'hiver. Schumann, très souvent, Les Amours du Poète, le Liederkreis opus 24, ce qui veut dire le cycle de chants, et bien d'autres chants, Brahms et tant d'autres ont suivi la musique chantante des poèmes de Heine, depuis Mendelssohn, Grieg, Reger, Richard Strauss, Liszt, Cornelius, et je pourrais en lire tant et tant. Mais très peu, et parfois pas Schumann d'ailleurs, ont vraiment compris ce qu'il y avait derrière le lyrisme fluide de Heine. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Une amertume absolue, un mal d'être de l'exilé. Sa Lorelei et à lui, qui est son poème que tous les gosses doivent annonner, est pleine de larmes amères, et elle engloutit, cette Lorelei, le corps de cette Allemagne qui voulait flotter dans l'inconscience. Heine, en faisant semblant de reprendre des formes poétiques populaires, dynamite en fait de l'intérieur l'imaginaire allemand. Là où on se réjouissait d'entendre les beaux chants d'un nouveau rossignol de la langue allemande, se dissimule en fait un merle persifleur. Et sous le fiel sourdé en fait. Par exemple, je ne reviens pas sur le premier qui est un chant absolu. Ce que vous avez entendu, c'est « Wenn ich in deinen Augen sehe, so schwindet an mein Leid und Weh ». Je m'arrête là pour l'allemand, simplement pour montrer le balancement. Ça veut dire quoi? Quand je regarde au fond de tes yeux, toutes mes peines et mes douleurs s'évanouissent. Mais quand j'embrasse ta bouche, là je deviens tout à fait guéri. Quand je me repose contre ta poitrine, il vient sur moi comme la joie céleste. Mais quand tu dis « je t'aime », alors je dois pleurer amèrement. Si on l'écoute rapidement, on se dit « c'est un beau poème d'amour, heureux ». Le sens profond, c'est l'éternel mensonge en amour qui apparaît. Et les larmes qui viennent de ce mot « je t'aime » montrent que l'amour sonne faux jusqu'à la fin du monde. Heine a beaucoup vécu au bord de la mer. Il dit « J'aime la mer comme une maîtresse » et j'ai chanté sa beauté et ses caprices. Et il y a beaucoup de poèmes sur la mer. Et souvent, il passera d'ailleurs ses automnes près de la mer du Nord, pas loin de Hambourg. Et il a fait de sa poésie d'ailleurs une marée, une houle d'images, le flux et le reflux des eaux des origines en fait. Ses amours malheureuses de sa jeunesse avec ses cousines Amélie puis Thérèse lui apprendront que l'amour cacher la mort et le mensonge. C'est le Burderlieder, le livre des chants, qui raconte un peu cela. Heine a une position très curieuse, même maintenant. Il reste le mouton noir de la germanitude, l'inclassable, le trop doué. pour la musique absolue de ces mots. Hein, et surtout, l'être double. Le juif et le converti. L'allemand et le parisien. Le saint-simonien, c'est le mouvement de Saint-Simon qui était pour, j'allais dire, une mondialisation heureuse. Il était à la fois saint-simonien et bonapartiste. Poète et journaliste. Il est aussi le poète dans une société mercantile. Le pauvre au milieu d'une famille riche, vivant de l'aumône d'un parent, aristocrate par goût, il se veut aristocrate, et démocrate par principe. Il se définit comme cela. Allemand de naissance et français d'éducation, rêveur et sceptique, amoureux et libertin. Tout cet écart allemand donnera sa poésie. Il ne sera que contraste. Il le savait d'ailleurs tout cela. Sa lucidité, bien la blessure la plus rapprochée du soleil, comme le disait René Char. Il doit à la fois assumer ses élans de révolutionnaire, sa condition de converti, et sachant qu'il est le juif, lui qui a transformé son nom de Harry, qui est le nom du judaïsme allemand, qui deviendra Heinrich, puis Henri, puisqu'il se fera appeler Henri Heine en France. Qui est-il, ce Heine? Il est né à Düsseldorf, le 13 décembre 1797. Il faut savoir que c'est une ville française, quasiment française à l'époque. Elle était occupée depuis 1806. Elle le sera jusqu'en 1814 par les Français. Mais en fait, sa ville natale, c'est pas là où il est né, c'est là où il s'est épanoui, c'est Hambourg, qui est une ville très extraordinaire. C'est là où il a vécu, très malheureux d'ailleurs, de 1816 à 1819, puis de 1825 à 1827. Il aura un diplôme de docteur en droit, qu'il abandonnera sans l'exercer. Il voulait exercer à Hambourg comme avocat, mais par la fortune des choses, il voudra devenir européen, allant et voyageant dans différentes régions d'Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France, en Pologne. Haï partout parce que juif, détesté parce que porteur des idées nouvelles, parce que internationaliste et progressiste. Il sera en fait l'homme à abattre de tous les nationalistes allemands surtout. Et il deviendra le poète le plus détesté de l'Allemagne, surtout dans les années 1930, où on était en peine dans la montée du nazisme. C'est 1933 hein, où le nazisme s'installe. Et la presse allemande se déchaînait en le traitant « c'est le cochon de Montmartre, c'est l'artisan de la désagrégation de l'art allemand ». Il a déversé des baquets de purin nauséabond sur le christianisme. Il a trahi et outragé l'Allemagne de la façon la plus ignoble. Voilà ce qu'il répond. Lui, 100 ans avant, hein, bien sûr. C'est plutôt, je parle de 1830 là. Que Dieu me le pardonne. Depuis 12 ans, je suis discuté en Allemagne. On me loue et on me blâme, mais toujours avec passion et sans cesse. Là, on m'aime. On me déteste. On m'apothéose, on m'injurie. Depuis presque 4 ans, je n'ai pas pu entendre Rossignol allemand. Donc, la haine, elle est de son vivant. Et par contre, elle va continuer. Hitler va lui-même interdire toute son œuvre. D'habitude, il le faisait faire par Göring ou Goebbels. Mais non, c'est Hitler qui signe un de ses tout premiers arrêtés quand il devient chancelier en 1933. Et tous les livres de Heine sont jetés dans les brasiers allumés le 10 mai 1933. Il a catalysé sur lui toute la haine nazie. Et c'était quand même 80 ans après sa mort. Hein. Mais même maintenant, son œuvre suscite bien des réticences en Allemagne. Bien sûr, il y a tous les poèmes que l'on chante, qu'on annonce dans les écoles, Lorelei, Lotus Bloom, etc. Mais les cycles majeurs de Lieder sont pas beaucoup donnés, sauf par quand c'est des génies comme Dietrich Fischer-Dieskau qui les donne. Pour vous montrer que c'était une perdure, il faudra attendre 1988. C'est même pas quelques années, hein, c'est moins de 20 ans, pour que l'université de Düsseldorf porte le nom du fils le plus célèbre de la ville. Je vous rappelle que Mahler avait connu un sort analogue avec Vienne. Et dès son époque, Heine fut vomi. Ainsi, son contemporain Grab dit la chose suivante. Heine est un petit juif, maigre et laid. qui n'a jamais connu de femme, et compense tout cela par son imagination. Sa souffrance, aussi peu naturelle, puisse-t-elle sembler, est peut-être réelle. Mais ces vers ne sont pas des poésies, c'est de la masturbation. Déjà, en 1820-1830, pour les Allemands, un juif ne pouvait pas faire de la beauté. Pas plus qu'un juif ne pouvait faire de la musique, comme Mendelssohn. Et cette haine pathologique du juif, et du lyrisme d'ailleurs, sera le terreau extrêmement riche du nazisme. Ce basculement du romantisme vers l'obscur, qui va précipiter la chute de l'Allemagne dans sa barbarie, était déjà là, vers les années 1800. Le nazisme n'est pas une éruption soudaine. Enfin, ça, c'est un peu ce que je vous répète à chaque émission pour vous en persuader. Heine, en plus, prédit le noir à venir, la réalité de ce qui sera la misère de l'Allemagne et donc la chute d'un barbarie. Je vous passer maintenant un thème qui sera chanté par quelqu'un d'autre que Discard, qui est un thème sur la Bible, parce que Heine a beaucoup écrit sur la Bible. Je vous en dirai. C'est extrait du livre de Daniel, numéro 5. C'est le fameux écrit sur les murs du fils de Nabucodonosor, Méné, Tekel, Parsim, qui veut dire que ton royaume aussi flamboyant, tu oses boire dans le ciboire du temple de Salomon et tu mourras. Voici Balthazar.
Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsatar hielt ein Königsmahl. Nächte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Blut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut und blind. Links reißt der Mut ihn fort und er lästert sie Gottheit mit sündigem Wort und er brüstet sich frech und lästert wild. Die Knechte schar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und geht zurück. Er trug viel Güldengerät auf dem Haupt, das so war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir künd ich auf ewig. Und ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grause Wort war klar, dem König ward heimlich, heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal, und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand, und schrieb an weißer Wand, Buchstaben von Feuer und schrieb. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblass. die Knechte schar saß kalt durch Graut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten
La musique est toujours de Schumann. Tout ça pour vous dire que Heine, mais je ne vais pas trop m'approfondir cela, a beaucoup écrit sur son judaïsme en fait. Par exemple, le rabbi de Baccarat, qui est son écrit le plus célèbre. Je voulais simplement ajouter que l'État d'Israël, que j'aime tant pourtant, ne l'a reconnu et ne l'a célébré que récemment, en 2002. Il ne lui pardonnait pas, du moins, les intégristes orthodoxes qui ont une grande place là-bas, ne le considéraient pas et ne voulaient pas qu'il soit considéré. Je vous rappelle que Hein était le fils d'un juif orthodoxe, quasi-rabbin, et d'une mère qui était issue d'une longue filiation de juifs hérédus libéraux. Mais l'intégrisme n'a pas de frontières. Pourtant, Hein est pour moi et pour bien d'autres, l'un des plus grands poètes juifs avec Paul Celan, Brodsky et Sachs. Je vais vous le prouver ainsi. Cette musique hallucinée est de Franz Schubert, la dernière année de sa vie, c'est dans le chant du Singen von Gesang. Elle s'appelle Die Stadt. Je vais juste vous donner en allemand la rythmique et l'assonance. Am fernen Horizont erscheint wie ein Nebelbild, die Stadt mit ihren Türmen in Abenddämon gehüllt. Ein feuchter Windzug kräuselt die graue Wasserbahn mit traurigen Takten, Ruder der Schiefer in meinen Kann. Die Sonne hebt sich noch einmal, leuchtend von Boden empor und zeigt mir mit jene Stelle, wo ich das Liebste verlor. Dans ma traduction, ça donne ceci, mais c'était pour vous faire entendre la musique, sans la musique justement. La ville, il s'agit bien entendu de Hambourg. L'horizon lointain apparaît comme une image de la brume, la ville, avec toutes ses tours enveloppées dans l'ombre du soir. Une brise humide frise la nappe grise des eaux, le batelier dans ma barque rame en triste cadence. Le soleil, une fois encore, s'élève, éclairant le sol, et me montre la place même où j'ai perdu l'amour. Voilà. Heine, sa conversion obligatoire a eu lieu le 28 juin 1825. Il s'est converti au protestantisme pour faire comme la plupart des juifs, hélas, de cette époque, afin d'accéder à une fonction publique. Il voulait faire avocat, il était docteur en droit. Ce sera une épreuve extrêmement blessante pour lui. Et lui, d'abord, il ne croyait qu'en l'avenir radieux de l'homme par les idées. Il ne croyait pas aux chapelles. Et il devait échapper au ghetto du pays. J'emploie pas ce mot par hasard. Je vous rappelle que des villes allemandes comme Francfort avaient bel et bien des ghettos en 1820. Le 18 août 1822, le roi de Prusse avait interdit toute présence de juifs dans l'enseignement et les sciences. D'où la nécessité absolue pour simplement exister de se convertir. Comme le dit Heine, leur patrie d'adoption allemande ne veut même pas autoriser les juifs à devenir fonctionnaires du roi de Prusse ou avocats pour les changer du commerce de vieux pantalons. Mais l'ironie ne sauve pas de la bêtise. Heine doit ruser. Il se convertit au baptême chrétien, allemand luthérien, vous ai-je dit. Mais cela ne servira à rien, car il restera pour toujours le juif aux yeux des autres, et rejeté par sa communauté comme traître. Il finit par se haïr lui-même d'être juif, mais surtout d'être allemand. Voilà ce qu'il dit. « Tout ce qui est allemand me répugne, agit sur moi comme un vomitif. La langue allemande me déchire les oreilles. Parfois, mes propres poèmes me dégoûtent quand je prends conscience qu'ils sont écrits en allemand. » On retrouve un peu ce que disait Paul Celan, hein, bien après. Voilà ce que continue à dire Heine. « Pour les teutomanes, ces vieilles Allemagnes, dont le patriotisme consistait que dans une haine aveugle contre la France, je les ai poursuivis avec acharnement dans tous mes livres. » Voyageur attentif au craquement des absolutismes, il était l'admirateur effréné de la Révolution française. Il a écrit d'ailleurs son chant le plus célèbre, qui est « Die beide, die zwei Grenadiers », les deux grenadiers sur la retraite de Russie. De cette révolution française, il ne voyait que les drapeaux et les tambours. Il ne voyait pas la guillotine. Napoléon était la liberté incarnée. Et de fait, l'Allemagne en sera profondément bouleversée et sera obligée de se reconstruire. Installé en France dès 1831, car il fut banni d'Allemagne, il écrivit pour plusieurs journaux allemands comme correspondant en France. Il était devant cette marmite qu'était la monarchie de juillet des années 1825-1830. Il se croyait au beau milieu d'un laboratoire des idées à venir, une préfiguration de la modernité dont il rêvait, lui, l'enfant des Lumières. Il se disait le fils et l'amant de la Révolution française, sous laquelle, d'ailleurs, il aurait été impitoyablement guillotiné, lui qui était un oiseau trop libre et impertinent. Comme un papillon épris de liberté, il venait se poser sur Paris, où semblait redéfinir la politique du monde et tout l'ordre social d'une utopie de monde à venir, loin de ces odieux teutons pris dans la haine baveuse du nationalisme. Ses rares amis, quand il en eut quelques-uns, furent Georges de Sand, Balzac, Musset. Il va épouser en 1843, alors qu'il commence à être malade, après 7 ans de liaison, une servante au grand cœur, comme aurait dit Baudelaire, une boniche, qui était une petite vendeuse de son état, qui était une petite bigote, quand je dis une très bigote catholique et totalement illettrée, qui s'appelait Eugénie Crescens Mira, qui le soignera quand même jusqu'à sa mort. Et il va leur baptiser Mathilde, c'est elle qu'on voit apparaître dans certains poèmes. Voilà ce qu'il dit d'elle. « Je ne sais si elle a été vertueuse, mais elle a toujours été laide. Et en fait de vertu, la laideur, c'est déjà la moitié du chemin. » Frappé de paralysie, c'était une douloureuse sclérose latérale myotropique, et ça dès 48, il va se traîner miséreux, paralysé, presque aveugle, sans avoir jamais revu l'Allemagne, sauf pour de très brefs séjours en 1843 et 1844. Il était, comme Jean Bousquet à Carcassonne, prisonnier de son lit tombeau, de son sarcophage, comme il l'appelait. Il était figé dans la douleur. Mais cloué, il écrivait. Plus tellement des poèmes, sauf à la fin, son ultime recueil, le roman Séro, de 1851. Et il va écrire surtout, donc, des textes. Et ce retour à la poésie des années lyriques de 1922 sera son dernier chant de Rossignol. Le corps était mort, mais son esprit scintillait encore. Le 17 février 1856, il mourut, et pour lui c'était une délivrance. Il est enterré au cimetière Montmartre, on peut voir sa tombe, que personne ne visite, c'est tellement plus intéressant d'aller voir la tombe de Morrison. Amer envers le monde, en colère contre tous les hommes. Il dit cette phrase, « Le monde compte bien plus d'imbéciles que d'habitants ». Il a vu venir la plongée dans l'obscur de l'Allemagne et aussi de toute l'Europe. Et il a cette phrase extraordinaire. « Nous ne comprenons guère les ruines que le jour où nous-mêmes nous le sommes devenus. » Je vais vous faire écouter, pour être en résonance avec sa mort, un texte qui est mis en musique par Brahms, qui dit la chose suivante. « Der Tod, das ist die kühle Nacht. Das Leben ist der schwüle Tag. Es dunkelt schon, mich schläfert. Der Tag hat mir müde gemacht. Über mein Bett erhebt sich ein Baum. Drin singt die junge Nachtigall. Sie singt von lauter Liebe. Ich höre sogar im Traum. » La mort, voici la fraîche nuit. La vie est le jour lourd. Déjà il fait sombre, je m'endors, le jour m'a tant fatigué. Au-dessus de mon lit se dresse un arbre, un jeune rossignol y chante. Il chante des amours éperdus et sonores. Je les entends à peine dans mon rêve.
Thank you.
la musique était de Brahms et c'était Margaret Price qui chantait ce lied assez extraordinaire. On voit que sans arrêt dans les écrits de Heine reviennent quasiment en autocitation et par thème récurrent les fondements de son idée fixe. L'Allemagne est sur la voie de la régression, la France est sur la voie de l'émancipation. Et il écrit ça dans Germania par exemple, Conte d'hiver qui est un de ses livres les plus virulents. Et aussi dans les lettres de Helgoland et Louis Byrne. Il a en lui une véritable obsession du sang et de la guillotine qui parcourt toute son œuvre. Sang non pas des victimes, dont il aurait fait partie d'ailleurs, mais sang libérateur, sang du drapeau bleu blanc rouge, sang émancipateur. La couleur du sang chez Heine a les couleurs d'un drapeau qui tricolore. Son premier amour, Josefa, était la rousse. La très très rousse fille du bourreau de Düsseldorf, ça a dû laisser des traces. Cette tête coupée semblait être le sacrifice nécessaire à la mort historique d'un monde pourri. Le tambour Legrand qui va citer reprend cette imagerie d'Épinal de la Révolution française napoléonienne, comme le ferait un film de propagande des premières années soviétiques. Il était élève de Hegel, Heine, et il croyait donc que l'histoire avait un sens. Mais il avait compris quand même que la révolution ne ferait pas la révolution politique et sociale qu'il appelait de toutes ses œuvres, de toutes ses forces. Les écrits du jeune Marx, on parle de Karl Marx, sont exactement contemporains du 1848. Ils sont beaucoup moins intelligents et beaucoup moins pénétrants. Ils se connaissaient d'ailleurs, hein, ils étaient amis. Karl Marx, à l'époque où il vivait sur Paris, et Heinrich Heine. Et Heine le lisait déjà depuis 1843. Donc, ils avaient une certaine amitié. D'ailleurs, le clone de Karl Marx, Friedrich Engels, passera son temps à traduire tous les poèmes de Heine en anglais. Donc, Heine est un être violemment nationaliste allemand, dans ses paroles, dans ses écrits. Et en même temps, il a un rapport déchiré, déchirant avec son pays natal. Il aurait tant voulu être le médiateur, le passeur entre ces deux peuples, allemand et français, qui auraient dû s'aimer. Profondément, lui, comme d'autres ont mal à l'âme, lui avait mal à l'Allemagne, voilà ce qu'il écrit. Ô Allemagne, mon lointain amour, quand je pense à toi, les larmes me viennent aux yeux. La gaie France me paraît morose, et son peuple léger me pèse. Seul, le bon sens froid et sec règne dans le spirituel Paris. Ô clochette de la folie, cloche de la foi, comme vous tintez doucement dans mon pays, il me semble que j'entends résonner de loin la trompe du veilleur de nuit, son familier et doux. Le chant du veilleur tient jusqu'à moi, traversé par les accords du rossignol. Donc toujours cette nostalgie, cette Sehnsucht profonde. Il sera donc, évidemment, le poète de l'écartèlement, celui qui voit même dans les yeux embués de l'amour, le mensonge, la trahison. Il est aussi la fermeture du monde romantique face à un pays en route et en déroute vers son industrialisation et qui n'a plus de penchant pour les faits, qui préfère le charbon. Heine assiste de ses yeux à la fin d'un monde, à la crispation des consciences, à la montée des fanatismes. Son lyrisme cristallin ne pouvait qu'être compris de travers. Les machines-outils couvraient sa voix. Surtout quand, dans un deuxième sens, il y a toujours deux à trois sens dans les poèmes de Heine, on voit que Heine exprime son désespoir devant la comédie des apparences que sont les sentiments humains. Mais ne croyez pas que la lecture de Heine soit facile. Ses poèmes semble se présenter comme des chants populaires, on les lit comme ça. Les enfants s'en emparent et les lisent. Mais ce n'est pas lisse, car derrière le cristal des mots qui sonnent l'un contre l'autre, se trouvent des fontaines extrêmement étranges. Et pour saisir sa magie ondoyante, seule la lecture en allemand permet d'entendre sonner sa langue que le français alourdit. C'est pour ça que je me suis permis de vous le lire parfois en allemand. Et mes pauvres traductions françaises que je vous ai données ont perdu l'éclat cristallin de sa voix. Bien sûr, certains de ses poèmes semblent à première vue de nouvelles chansons populaires gorgées de lyrisme. Mais elles sont toutes tissées d'allusions historiques, de légendes à connaître, de sous-entendus, de double sens amer. Heine commence à être délaissé car sa lecture exige beaucoup de son lecteur, beaucoup d'intelligence de ce complice-là. Les nuages noirs des préjugés accumulés sur sa pauvre tête le rendent encore plus difficile à fréquenter. Depuis, en plus, il écrit dans des formes qui sont comme lui inclassables. Reisebilder, par exemple, ce qui s'appelle Image de voyage, de voyage est un exemple parfait mélangeant confession intime, roman d'apprentissage, haine et amour dévoilés, satire. Donc, comment le comprendre ? En fait, pour le comprendre, il faut connaître les fondements des légendes allemandes, ce qu'on a vu avec Mahler dans Le corps merveilleux de l'enfant. Et il faut voir ces cortèges funèbres où on est soi-même dans le cercueil, où l'aimé, les chasseurs, les oiseaux qui vous comprennent, les fleurs vous parlent. Si on n'a pas en soi cette naïveté première, Heine reste de vous être à tout jamais fermé. Il est dans le romantisme finissant, mais son rire amer retentit souvent au milieu des effusions lyriques. Il dynamite en fait le romantisme littéraire autant que le classicisme. Il a des rapports très ambigus avec Goethe. Il fait semblant de l'adorer, mais l'aime-t-il vraiment ? Et ça montre là, en fait son isolement et son originalité. Tout allemand se devait d'admirer Goethe. Heine s'en moque. Il reprochait aux romantiques en fait l'impuissance de la forme, la perpétuelle indétermination de leur pensée, les formes structurées, canonisées, figées du chant populaire, et les légendes d'antan que l'on mettait en balade et qui étaient que des flots à peine cohérents. Il tord le cou au vaporeux romantisme et lui faisant prendre les droits chemins des vieux chemins oubliés, il l'égare. Il le ramène aussi vers d'autres lumières. Il dit de ses poèmes « Vous y verrez des sons nouveaux, je fais entendre des nouvelles cordes, je fais vibrer de nouveaux sentiments, j'ai subi de très bonne heure l'influence du chant populaire allemand et les mystères de la métrique. » Heine va ressourcer, rafraîchir la poésie allemande en la trempant dans la rivière fraîche de la simplicité de la simple musique des mots. Il voulait être pur et cristallin, enfantin et clair. Il avait sous-estimé cette amertume qui était comme une bile qui sortait de lui, qui va colorer ce bleu du ciel avec des zébrures noires. Mais il n'avait pas sous-estimé sa passion profonde qui fera entendre vrai ses poèmes. Il préféra souvent les formes brèves, les rimes qui sont bruit doux, les visions qui sont magie. Bien sûr, il n'évite pas toujours cet héritage lourd du romantisme qui est la mièvrerie parfois. Mais ses poèmes ont des ailes, ils s'envolent toujours. Il réintroduit en fait le paganisme et le jadis, l'ancien, dans le consensus chrétien de la culture occidentale. En fait, il éventre, il a dynamite. Et le jeune Rilke prendra toutes ses influences dans les poèmes de Heine, ce qu'on sait peu. L'intrusion des mondes du bruit, du monde réel, sa lutte pour la démocratie en fait un homme de la modernité, un frère cadet de tous les hommes. Heine avait une philosophie de l'histoire. Des pensées précises sur le monde à venir, l'amour du progrès, les nécessités presque messianiques, des douleurs de l'enfantement de la modernité. Je vous avais dit qu'il était saint-simonien, ce qui est une secte moderniste. Il connaissait aussi la faiblesse des hommes. Il dit la chose suivante. « Je suis fermement persuadé que les ânes, quand ils s'insultent entre eux, n'ont pas de plus sanglante injure que de s'appeler homme. » Heine représente l'honneur du poète et de l'intellectuel moderne. C'est le fils des Lumières. Il les a fait monter parmi les autres. Mais quelle est la grande tâche de notre temps, dit-il ? C'est l'émancipation, non pas seulement celle des Irlandais, des Grecs, des Juifs de Francfort, des Noirs d'Amérique et des autres populations également opprimées, mais celle du monde entier, et spécialement de l'Europe, qui est devenue majeure et qui rejette aujourd'hui les lisières de fer des privilégiés de l'aristocratie. Quelques renégats philosophiques de la liberté ont beau forger les chaînes des syllogismes les plus subtils pour lui démontrer que des millions d'hommes sont créés pour être les bêtes de somme de quelques 1000 chevaliers privilégiés. Ils ne pourront nous convaincre tant qu'ils ne prouveront pas, comme dit Voltaire, que ceux-là sont nés avec des selles sur le dos et ceux-ci avec des éperons aux pieds. C'est de 1830. Émancipé, Heine sera émancipateur. Il aurait pu en fait rester simplement grand poète romantique. Il sera un écrivain visionnaire. Voici une phrase de Heine. « Ceux qui brûlent des livres finissent tôt ou tard par brûler des hommes. » C'est écrit en 1830. Et ce n'est pas, comme on le croit bêtement, de Bertolt Brecht. C'est de Heine. « Ceux qui brûlent des livres finissent tôt ou tard par brûler des hommes. » Voilà Heine. Je vais maintenant vous lire simplement quelques poèmes dans le temps qui m'est imparti. Et je vais commencer par celui-ci, par exemple. « Tu es morte et tu ne le sais pas. éteinte à un instant, pâlit ta belle bouche rouge, et tu es morte, mon enfant, morte. Et dans une nuit d'été lugubre, je t'ai moi-même porté en terre. Les rossignols ont chanté des chants funèbres. Les étoiles sont venues avec moi sur ton cadavre. Le cortège qui passait devant la forêt a repris tes litanies. Les pins encagoulés de tristesse, ils ont bourdonné les prières des morts. À passant par les prairies du lac, les elfes dansaient en rond. Ils se sont soudain figés, semblaient porter des visages de douleur. Et quand nous arrivâmes à la tombe, la lune se leva depuis tout le ciel et elle tint un long discours, un sanglot et un gémissement, et au loin, les cloches résonnaient. Un texte qui sera illustré par la musique, qui est de Dichterlieb, c'est Ich grolle nicht. Je le vous dis qu'en français. Je te maudis pas, mon cœur, dut-il se fendre. Mon amour perdu à jamais, non, je ne te maudis pas. Tu as beau resplendir de l'éclat du diamant, aucun rayon ne perce la nuit de ton cœur, je le sais depuis si longtemps. Je ne te maudis pas. Mon cœur dut-il se fendre. Je t'ai pourtant vu en rêve. J'ai vu la nuit dans l'espace de ton cœur. J'ai vu le serpent qui te dévore le cœur. J'ai vu mon amour. Combien tant tu es misérable, je ne te maudis pas.
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich verlor es lieb, ich verlor es lieb, ich grolle nicht, ich grolle nicht, wie du auch streitst. In Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
qui était toujours de Schumann. Je vais vous dire au revoir, chers auditeurs, avec un poème étonnant, Der Doppelgänger, mis en musique par Schubert, qui dit la chose suivante, ça veut dire le double. Silencieuse est la nuit, et les rues se reposent dans cette maison, vivez mon amour. Elle a depuis longtemps quitté cette ville, mais la maison se dresse encore à la même place. Là aussi est un homme. Il regarde vers le haut, il tord ses mains, la force de la douleur. L'horreur me saisit quand je vois ses traits. La lune me montre mes propres traits. Oh toi, mon double, mon camarade blafard, qu'as-tu donc à singer ma peine d'amour qui m'avait tant torturé sur ces lieux mêmes, tant et tant de nuits dans les temps anciens.
Es ruht noch das Haus auf dem selben Platz. Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt. Graust es, wenn ich sein Antlitz sehe, der Mond zeigt mir meine Geselle, was äffst du nach mein liebes Leid, das mich gequält auf dieser Stelle?